Religion du Monde, Geneviève Delru.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour ce premier Religion du Monde de l'année 2020, je vous propose de regarder vers un avenir un peu plus lointain avec nos invités, Samuel Liévin, directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Le Pèlerin, et François-Xavier Maigre, rédacteur en chef de ce même magazine. Et puis également notre troisième invité, le docteur Ariel Toledano, pour son livre « Réparer les corps, réparer le monde, 8 portes pour accéder à la sagesse » publié chez InPress. Une sagesse empruntée, nous le verrons, au texte et aux préceptes des grands sages du judaïsme. À vous trois, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'ouvrir ensemble cette année. Alors, si j'ai choisi de vous réunir, c'est parce qu'il y a une continuité dans votre façon de regarder le temps, de regarder l'avenir. Le Pèlerin s'est lancé dans une fiction pour ce premier numéro de l'année. Imaginez la vie d'une famille normande en 2030, une famille rurale dont le quotidien est piloté par le réchauffement climatique et l'intelligence artificielle. Alors, entre poules pour les déchets, robots, maisons connectées, utilisation de drones et sans oublier l'hologramme du prêtre ainsi présent dans 10 paroisses à la fois, crise des vocations oblige, eh bien c'est un peu bienvenue dans 2030. Alors, donc pour vous, c'est une adaptation en quelque sorte à un monde qui va venir, tandis que pour le docteur Ariel Toledano, réparer les corps, eh bien en fait, c'est à prendre dans un sens beaucoup plus large, c'est réparer le présent, réparer un monde imparfait, cela dans la vision du judaïsme. Alors, on commence avec le pèlerin. Qu'est-ce qui vous a pris, Samuel Liévin, d'imaginer notre monde dans 10 ans?
Alors très concrètement, on s'était livré à un exercice auquel se livrent souvent les rédactions des hebdomadaires chaque année, c'est de dire voilà, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre numéro rétrospective. Et puis là, on s'est tous regardés, on s'est dit non, on n'a pas vraiment envie de faire une rétrospective, non pas que les années se suivent et se ressemblent, mais là on a plutôt envie, puisqu'on inaugure une nouvelle décennie, de se dire bah, on va honorer ce basculement, et puis il y a tellement de choses qui sont là sur le point de basculer, on sent la société qui était quand même tiraillé par énormément de changements, que ce soit technologique, législatif, politique, et ça va s'accélérer. Donc on s'est dit, c'est plutôt là que nos lecteurs nous attendent finalement, avec une vision un peu plus tournée vers l'avenir et pas forcément artificiellement enfermée dans une année. Donc on s'est dit, banco, on y va et rendez-vous dans 10 ans.
Alors vous avez demandé à 2 journalistes de votre rédaction, on a l'impression que ce sont des trentenaires, qu'ils sont très jeunes parce qu'ils ils ont une vision... La vision des jeunes, j'allais dire. Or, ce sont plutôt des cinquantenaires de votre rédaction, François-Xavier Maigre, qui ont rédigé ce texte très original.
En fait, on a constitué un groupe de 7-8 personnes de la rédaction pour réfléchir ensemble et pour forger ce récit. Et effectivement, ce sont 2 journalistes quinquagénaires de la rédaction qui ont piloté l'écriture du texte. Et on s'est beaucoup amusé parce que ce texte, cette histoire comporte des éléments presque un peu burlesques. Et en même temps, ça dit des choses assez justes et assez profondes de ce qui nous attend potentiellement dans les 10 ans à venir.
Ah oui, effectivement, je dois dire que j'ai souri quand j'ai commencé à lire ce texte, avec notamment la fille de ce couple qui s'appelle Greta.
Bah oui, effectivement, parce que cette fille, elle est née au moment où Greta Thunberg était personnalité de l'année pour le Times, au moment où elle était présente sur tous les plateaux, tous les jours. Et du coup, elle incarne un petit peu cette génération qui est née au début de cette prise de conscience climatique très forte. Et on trouvait ça amusant de faire ce petit clin d'œil à l'année 2019.
Alors, ce couple, c'est un couple de ruraux, c'est bien cela, Samuel Liévin?
Alors, on a voulu un couple avant tout normal, c'est-à-dire qui vive dans un endroit qui soit ni trop urbain, ni trop à la campagne, qui soit finalement, ça pourrait être votre vie, la mienne, voilà, si on n'était pas ici sur un plateau d'émission à Paris. Et donc, on s'est dit, voilà, comment on peut partir de la vie très concrète des gens, c'est-à-dire qu'on part finalement de notre ADN du magazine, qui cherche à accompagner les gens dans leur quotidien, et puis comment on peut, à partir de ce qui se profile déjà aujourd'hui dans nos usages les plus quotidiens, comment on peut imaginer, mais sans trop forcer le trait, sans être trop dans la caricature, avec parfois un peu d'humour quand même, ça fait du bien, les imaginer 10 ans plus tard. Et donc oui, on a choisi la Normandie, région qui nous a semblé normale, comme aurait pu l'être la Savoie, mais là on a choisi la Normandie. Alors la Normandie a quand même, c'est vrai, le côté normalement tempéré, or on s'aperçoit que il fait plutôt très chaud en été, les 40 degrés qui nous ont fait souffrir cet été, sont au rendez-vous quasiment chaque année et on se rend compte que dans une région qui est justement connue pour être tempérée, plutôt humide, plutôt, eh ben, il y a des basculements, y compris dans les modes de vie climatiques, etc., etc. Et donc ça nous a donné un terreau intéressant pour imaginer notre scénario.
Alors ce couple qui est un couple gâteau, hein, quand même, qui va aller à la messe, mais on va raconter comment, n'a qu'un enfant. C'est pas croissé, multiplié, là c'est terminé, ça. N'a qu'un enfant et ils ont adopté un
ils
jeune.
Ils ont qu'un enfant par choix.
Par choix, ah, complètement, oui, par choix. Oui, donc c'est bien ça. Ils n'ont pas répondu au précepte du croissé, multiplié de la Bible. Ils n'ont qu'un enfant par choix parce que justement ils savent que la terre est déjà fort peuplée.
Exactement, oui.
Ils en ont un deuxième par choix aussi, c'est l'adoption d'un enfant. On se dit, tiens, il s'appelle Arif. C'est pas un prénom qu'on donne, en tout cas aujourd'hui.
Dans 10 ans,
en Normandie. Mais on se dit, c'est parce que lui est issu de l'immigration, ces fameux migrants dont on parle tous les jours depuis plusieurs années. Eh bien, là, il y a eu un basculement de l'opinion quand même en une dizaine d'années. Et là, les gens se sont tout simplement sentis responsabilisés par rapport à tous ces déplacements de population. Peut-être même qu'on y est pour quelque chose. Alors, ce n'est pas tous des déplacés climatiques au sens, je dirais, technique du terme. Mais il y a une volonté là de s'impliquer pour les accueillir et les intégrer. Et là, il y a un changement de regard sur le migrant et donc un basculement de société dont on peut faire état dans un récit finalement très quotidien.
C'est ça. Alors, je rappelle donc que Le Pèlerin est un hebdomadaire donc, du groupe Bayard, donc hebdomadaire chrétien, on va dire. Et ce débat sur les migrants, effectivement, est un débat qui existe chez les chrétiens.
Oui,
François-Xavier Maigre.
Non seulement il existe, mais il est également très clivant chez les chrétiens.
Complètement, oui.
L'enseignement du pape François, qui est renouvelé année après année sur cette question, divise jusqu'aux communautés catholiques. Et nous, dans ce récit, on a fait le pari, d'une certaine façon, d'une réponse humaniste, d'une réponse de proximité à ce défi, avec effectivement l'adoption de cet enfant, l'accueil de cet enfant dans une famille catholique. C'est quelque chose qui nous a semblé très important dans notre récit, c'est de ne pas faire une peinture catastrophiste et sombre de l'avenir, mais aussi de décrire ce en quoi on croit, nous. Actuellement, il y a énormément de gens qui tournent sur les plateaux, des collapsologues, des gens qui nous promettent le chaos et qui nous disent qu'il faut que c'est trop tard. Nous, on est persuadés, c'était une façon de le dire à travers ce récit, que on peut encore agir et on a été vers un futur souhaitable. On a décrit, en tout cas dans certains aspects, un futur qui nous semblait atteignable par la vertu, par le comportement, par des prises de conscience individuelles et collectives.
Oui, effectivement, ça nous ramène un petit peu en arrière. C'était au mois de l'été dernier, vous avez publié, Le Pèlerin a publié, toute une enquête, ces jeunes qui redoutent la fin du monde. Alors aussi bien, effectivement, la pollution, les dérèglements climatiques, l'extinction des espèces, etc. Donc là, ça répond un peu, c'est le pendant.
Oui, on a voulu ausculter quand même ce phénomène. On a vu cette collapsologie. Je pense que si on parlait autour de ce plateau il y a un an, en tout cas deux, c'est sûr, on ne savait pas de quoi en parler.
On ne connaissait même pas le mot.
Voilà, et aujourd'hui, on manipule le mot collapsologie comme si c'était quelque chose d'évident. Et c'est vrai qu'il y a un syndrome fin du monde quand même qui est très, très présent dans les esprits, et donc on a voulu l'ausculter parce qu'on ne peut pas être un journal chrétien, ne pas être attentif à ce genre de peur millénariste.
Au signe des temps, oui, quand même. Oui.
Voilà, au signe des temps, oui. Et pour autant, malgré tout, se dire que rationnellement, l'humanité en a vu d'autres. Alors certes, elle a quand même des rendez-vous là très très importants qui se présentent, qui ne sont jamais présentés auparavant dans son histoire, mais il n'y a pas de raison qu'elle n'arrive pas non plus finalement à franchir cette étape. Et là, comme disait François-Xavier, il y a justement ce pari que en puisant dans ses ressources humaines, spirituelles, humanistes et spirituelles, elle peut apporter des solutions qu'elles sont sans doute à portée de main.
Alors, on va parler plus en profondeur plus tard, docteur Ariel Toledano, précisément, de votre livre. Mais là, ce que vient de dire Samuel Liévin et également François-Xavier Maigre sur cette façon, justement, de réparer, en quelque sorte, le monde, puisque c'est quand même le thème de votre livre, ça vous parle, ce qui vient d'être dit ?
Ça me parle d'autant plus que, évidemment, en tant que médecin et dans mon activité quotidienne, je vois quand même des gens qui sont en souffrance, des gens qui sont vulnérables. Alors c'est intéressant de se projeter dans 10 ans, mais je crois que moi je suis un médecin actuel, quotidien. Cette souffrance, il faut apporter des réponses. On est dans une médecine de plus en plus rationnelle, malgré tout, et on n'accepte pas une part d'irrationnel dans le soin, aujourd'hui. Ce que j'ai voulu faire, et d'ailleurs quand j'ai écrit ce livre, vous verrez, il y a 8 portes pour accéder à la sagesse.
On va en parler tout à l'heure, oui.
Voilà, on en parlera un peu plus longuement, mais ce que j'ai voulu faire, c'est essayer de redonner de l'apaisement aux gens. Cette souffrance, qu'on puisse la réparer, entre guillemets, par un accès au texte. Et c'est exactement peut-être ce que vous avez voulu faire également dans Le Pèlerin. Je trouve ça très intéressant en tout cas.
Oui, c'est pourquoi effectivement je vous ai réunis, parce que j'estimais que vos réflexions en tous les cas se complétaient. Alors il y a un passage assez amusant, je dois dire, dans votre fiction, François-Xavier Maigre, Salma Liévin, c'est cette grand-mère qui est centenaire, qui se prépare à un concours parce qu'elle est complètement, elle a été révisée, elle est passée à la révision des 100 ans, si je puis dire, au garage. Elle a des hanches nouvelles, un cœur nouveau, etc.
Elle a été reconditionnée comme les iPhones.
Ah oui, complètement, oui, oui. Et ça, effectivement, c'est...
Bon. Mais on en voit beaucoup, hein, vous savez, des centenaires, c'est pas quelque chose, là encore...
C'est pas exceptionnel.
J'ai eu ce matin ma plus vieille patiente, entre guillemets, elle a 107 ans. Donc, vous voyez, donc c'est pas quelque chose... On en voit beaucoup maintenant dans nos consultations, les personnes sont de plus en plus... On les soigne bien, hein, il faut être clair. Et voilà, et on va en voir de plus en plus. Vous avez parfaitement raison d'imaginer ça dans 10 ans.
Hein. Ah oui, elle va participer à la... Voilà. C'est quoi, c'est
alors,
quoi
elle, là, elle fait un triathlon, elle fait un Ironman.
Ah, carrément, ouais. Alors là, vraiment, elle est en très grande forme. Alors, hein.
Quelle grand-mère.
Ouais. Donc là, on aborde quasiment du transhumanisme. Hein, là.
On a forcé le trait, bien sûr. Oui. Évidemment, on a forcé le trait sur certains aspects. Mais je pense que ça met le doigt sur des choses qui sont déjà en germe et qui vont se développer dans les décennies à venir et qui posent des questions éthiques fondamentales. Derrière le divertissement qu'on peut parfois pressentir dans ce texte, il y a aussi des questions assez profondes sur des grands enjeux de société, notamment autour de la médecine. Et là, on rejoint votre réflexion. Et je pense que ce qui nous relie finalement, c'est comment garder l'humain au cœur du projet social, du projet collectif.
Et vous abordiez quelques instants, vous évoquiez, docteur Ariel Toledano, le transhumanisme.
Tout à fait.
C'est une question que vous suivez de près.
Ah oui, bien évidemment. D'autant que, de toute façon, on ne peut pas retarder l'évolution de notre médecine. Je veux dire, le transhumanisme, c'est quelque chose que l'homme augmenté, on en bénéficie tous les jours aujourd'hui. Quand vous faites opérer d'une cataracte, par exemple, vous bénéficiez d'une intervention qui vous augmente votre potentialité. Donc, on ne peut pas dire non de manière absolue, mais ça amène à des réflexions éthiques qui sont importantes, en tout cas, à soulever.
Alors, je reviens aux questions énergétiques. Alors là, par contre, ça m'a fait beaucoup moins sourire. Cette catastrophe nucléaire en Grande-Bretagne, de Hinkley Point...
Qui n'est pas le Brexit,
non. juste après la mise en service de cette centrale en 2027. Alors là, vous répondez aux angoissés du nucléaire?
Mais ce qui est quand c'est vrai, le pape en plus a pris lui aussi des positions sur la question qui elle aussi d'ailleurs divise, hein. Oui. Et donc c'est à chaque fois ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ce récit, on arrive toujours à des points du quotidien. C'est alors qu'est-ce que vous décidez? Et en réalité, comme vous venez de le dire, docteur Toledano, il n'y a pas d'approche idéologique, il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a une technique, à un moment donné, il y a une technique qui est disponible dont on voit les limites. Par exemple, on vous a pas peint un monde d'où les moteurs thermiques auraient disparu, d'où le nucléaire aurait complètement disparu. On sent que là, l'humanité fait un peu du slalom entre ce qui est disponible, ce qui ne l'est pas encore, ce qui est bon pour elle à court terme, ce qui le sera un peu plus à long terme. Et donc, oui, alors on force le trait en disant, voilà, la menace, elle existe. Pour autant, on n'en ressortira pas en un an ou deux. Donc, on évite justement de s'enfermer dans des approches militantes ou caricaturales, ou même, ce qui pourrait parfois être tentant dans un journal chrétien, une approche un peu de condamnation, quoi, ou de choix moral. On se rend compte, voilà, qu'il va falloir composer avec cette technique qui nous apporte en réalité beaucoup plus, malgré tout, qu'elle ne nous désapporte. Oui. Et le tout étant de ne pas perdre le contact avec l'humain.
Avec l'humain, oui, effectivement, cette technique, il y a ce train qui circule à 1000 km/h, c'est ça ?
1000 km/h, en tout cas, c'est oui. Ce qu'on aimerait, François-Xavier et moi. Oui.
Bah, François-Xavier, vous habitez en province ?
Il ne faut pas qu'il y ait de grève, hein, par contre. Hein.
Non, moi, je me déplace
mais ça
moto.
Sera automatique, peut-être.
Non, mais c'est un projet, l'Hyperloop, qui est déjà, dans les tuyaux, pardon, c'est un mauvais jeu de mots, mais c'est un projet qui est très sérieux, qui est développé en ce moment. Et si j'ai bien compris, c'est un train qui circule dans une atmosphère sous pression et qui peut du coup atteindre des vitesses faramineuses et qui nous promet potentiellement un déplacement terrestre d'une extrême rapidité entre des mégalopoles.
Alors, angoissant aussi, hein, on fleure Honfleur, dont il a fallu finalement démonter les jolies maisons du Moyen-Âge parce que l'eau est arrivée beaucoup plus haut, c'est la montée des eaux.
Voilà, et c'est de Honfleur, devenu New Honfleur, qui se trouve donc sur, qu'on a remonté sur une colline. Et là, oui, c'est assumé, c'est tirer le trait de cette fameuse montée des eaux qu'on nous prédit dans les prochaines décennies. Donc ça commence, hein, concrètement, on a vécu Venise avec, dans une désolation
totale. Oui.
Totale. Et donc, Honfleur fait partie de ces, aussi de ces petits bijoux menacés, mais il y en a d'autres. Et donc, effectivement, on a là, encore une fois, une humanité qui s'adapte, qui prend acte, qui remonte donc ces maisons médiévales. Donc là, pour le coup, c'est la technique qui permet quand même, malgré tout, au passé d'être sauvegardée. Donc, ce n'est pas entièrement négatif. Et puis, des habitants qui retissent leur quotidien autour d'une, voilà, d'une ville, d'un environnement redessiné. Au fond, c'est la médecine appliquée à l'aménagement du territoire.
François-Xavier Maigre.
Mais comme le dit Samuel, en fait, nous, dans notre récit, à travers nos personnages, on a fait le pari d'une humanité résiliente qui finalement arrivait à composer avec des phénomènes inéluctables pour préserver cette humanité, cette vie sociale, ce patrimoine aussi. Et parfois, les collapsologues ont une projection très négative, très anxiogène de l'avenir. Nous, au contraire, on se dit que le génie humain et la créativité des hommes peut permettre de trouver une nouvelle voie.
Alors là, ça rejoint totalement votre livre, Ariel Toledano, avec cette faculté de s'adapter.
Tout à fait.
La vie, c'est le mouvement.
Tout à fait. Non, c'est vraiment exactement. Alors, c'est vrai que vous avez raison de dire qu'au début de notre entretien, que mon livre est très inspiré de la sagesse juive. Ouais. Mais je crois qu'il est aussi inspiré de la philosophie. Hein. Vous avez vu qu'il y a pas mal de citations de Platon.
Et
je
voyais
même
présent.
Au départ, je voulais même l'appeler conversation entre Rabbi Akiva et Platon. Donc, c'est pour vous dire. Moi, j'ai quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'en ai juste pour deux secondes.
Allez-y.
Ah oui, d'accord. Simplement dire que ce livre, c'est une réflexion sur la sagesse en général et comment cette sagesse peut nous apporter une forme de sérénité, même par rapport à ces visions un petit peu que vous exprimez. J'entends beaucoup ce mot collapsologue aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment pas ce que j'aimerais voir comment les choses évolueraient. Vous savez, dans le texte de la Bible, on raconte que Dieu a demandé à Noé de créer une arche. Alors, il allait y avoir le déluge. Et dans cette arche, il lui a demandé volontairement, je le dis en hébreu, de faire une tsoar. Et les commentateurs juifs de la Bible disent qu'en fait, tsoar, certains disent que c'est une fenêtre et d'autres disent que c'est une pierre précieuse. Et c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord entre eux, c'est-à-dire que la majorité des rabbins ne sont pas d'accord. Il y en a trois qui disent ben, « on ne sait pas ce que c'est ». Vous vous rendez compte, ça veut dire qu'ils ne savent pas comment interpréter ce texte. Ça veut dire quoi, en fait, c'est une réflexion sur d'où vient la sagesse, d'où vient quelque chose qui pourrait illuminer l'esprit. Ça veut dire quoi, ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire que si c'est une pierre précieuse, ça veut dire que la sagesse ne viendrait que de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est une pierre précieuse qui va illuminer l'arche par l'intérieur. Si c'est une fenêtre, ça veut dire que la lumière vient de l'extérieur et elle illumine l'arche. Et les rabbins ne sont pas d'accord, et comme toujours, ils sont souvent pas d'accord. Dans le Talmud, par exemple. Et en fait, la majorité considère que c'est ni une pierre précieuse, ni réellement une fenêtre. Donc, c'est quoi? Ben, en fait, c'est justement, ils considèrent que la sagesse vient également de l'intérieur, mais elle vient également de l'extérieur. Donc c'est pour ça que ce livre, c'est certes centré sur la sagesse juive, avec des auteurs comme Maïmonide, Martin Buber, Abraham Heschel, qui sont des auteurs qui m'ont beaucoup marqué. Le livre Les bâtisseurs du temps, qui est un livre qui est sorti en 1957, dans cette fameuse maison d'édition, des éditions de Minuit, et qui a beaucoup apporté, à mon avis, pour faire connaître le judaïsme dans les années, fin des années 50 en France. Mais c'est aussi une réflexion sur la sagesse et comment cette sagesse peut nous apporter justement cette sérénité dans notre quotidien et comment elle peut aider certains patients à surmonter des épreuves qui sont difficiles.
Oui, justement, il y a une très belle phrase hein, d'Abraham Heschel que j'ai notée. À l'aube de cette année qui s'ouvre, c'est bien, je trouve, de la rappeler, sache qu'on trouve l'éternité dans chaque instant.
Tout à fait. Franchement, c'est quelque chose. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que cette phrase, c'est la fin du livre d'Abraham Heschel. Et j'encourage beaucoup de gens, ceux qui ne le connaissent pas, parce que c'est vrai que c'est un philosophe rabbin juif américain qui est peu connu en France, malgré cette édition. Qui est d'ailleurs, je connais bien le responsable des éditions de Minuit, un des responsables, et il me dit, il s'en lit quand même, il s'en vend 400 par an en France. Donc c'est toujours ça, mais c'est un penseur qu'il faudrait lire parce que c'est une très belle approche du judaïsme. Et c'est moi, j'avais tellement envie de prolonger cette réflexion qui émane de ce texte que c'est la fin de son livre, ce que vous êtes en train de raconter. Et moi, c'est le début du mien, comme une sorte de prolongement de réflexion sur cette pensée de ce grand homme qu'est Abraham Heschel.
Vous écoutez Religion du Monde. Nos invités sont Samuel Liévin et François-Xavier Maigre de la rédaction de Pèlerin et le docteur Ariel Toledano. Samuel Liévin, alors il y a aussi dans ce récit, dans cette fiction que vous avez donc, que vous publiez à l'occasion de cette nouvelle année, dans cette fiction, il y a le prêtre. Alors le prêtre représenté, enfin qui vit grâce à son hologramme en quelque sorte, il sera dans 10 paroisses à la fois le dimanche parce qu'il n'y a plus beaucoup de prêtres et que si on veut suivre une homélie, eh bien il faut accepter de le voir en 3D.
Alors c'est à la fois une petite provocation et en même temps, finalement, c'est peut-être la partie la plus réaliste du récit. Si on tire le fil des vocations, on va se trouver véritablement face à une pénurie de prêtres. Aujourd'hui déjà, il y a beaucoup de diocèses, notamment ruraux, où on compte jusqu'à 70-80 clochers par paroisse. Donc ça fait des prêtres qui, lorsque vraiment ce sont des gens volontaires, vont réussir à célébrer une fois dans l'année sous chaque clocher. Et donc ça ne tient plus. Le maillage territorial, c'est un héritage du 19e siècle que l'Église dans les territoires a de plus en plus de mal à tenir. Alors elle peut retourner le problème comme elle veut. Le sujet a mis du temps à s'imposer dans les discussions entre évêques, mais il va bien falloir faire quelque chose. Donc là, peut-être, on propose là une solution technologique, effectivement, qui est de projeter des hologrammes de prêtres populaire en plus, si possible, parce que là, en plus, dans le récit, on peut lire qu'on l'apprécie beaucoup, ce prêtre, parce qu'il a un propos très engagé, très ferme sur l'état du monde, sur l'écologie, etc. etc. Et donc, effectivement, pourquoi pas imaginer une présence réelle du prêtre, comme ça, dans les communautés. Voilà, c'est une manière de forcer un petit peu le trait de quelque chose qui est déjà bien réel.
François-Xavier Maigre.
Vous savez, quand la messe télévisée a commencé, au début, ça a posé des débats théologiques très, très...
Est-ce qu'il faut pas ?
Exactement, très fort chez les théologiens, chez les fidèles aussi. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait partie du paysage et aucun catholique n'imaginerait remettre cette célébration télévisée en cause. Donc, on peut très bien imaginer que dans les décennies à venir, effectivement, l'Église s'imprègne de nouvelles technologies comme les hologrammes pour assurer une présence dans certains lieux.
Présence réelle.
Présence réelle, voilà. ça peut friser la boutade, mais comme le dit Samuel, pas forcément.
Est-ce que vous imaginez
Ariel Toledano, un rabbin virtuel,
un rabbin, l'hologramme d'un rabbin
ou un médecin virtuel.
Nous, c'est un petit peu plus compliqué, en tout cas dans la tradition juive, parce que vous savez, le jour le plus fréquenté dans les synagogues, c'est le samedi. Et le samedi, il y a vraiment des règles très strictes sur l'utilisation de l'électricité. Donc, je ne crois pas que ça soit réellement.
C'est pas compatible,
ouais,
en fait.
À mon avis, ça sera compliqué, mais on y viendra. Oui. Pour un judaïsme peut-être plus ouvert, moins strict à l'égard de ces règles qui sont ancestrales, peut-être qu'ils y viendront et peut-être que c'est une réponse. Mais je crois que la particularité quand même du peuple juif, c'est qu'ils sont pas très nombreux. Donc je crois pas qu'il y aura une crise aussi importante. Il y aura toujours quand même, à mon avis, quelques rabbins. C'est peut-être plus différent pour d'autres religions où les fidèles sont beaucoup plus nombreux.
Et pour la médecine, en revanche, effectivement.
Alors pour la médecine, ça existe déjà. On n'est pas au niveau des hologrammes. On est évidemment. Vous savez que c'est maintenant, on peut faire une médecine, ce qu'on appelle une télémédecine. C'est-à-dire qu'on peut. Et d'ailleurs, même la sécurité sociale accepte de nous rembourser maintenant une consultation entre guillemets virtuelle, c'est-à-dire avec un médecin qui vous examine. Mais c'est pas vraiment un hologramme. Alors après, ça pose une question, à mon avis, intéressante, parce que un hologramme, c'est quelqu'un de virtuel. Donc, moi, j'avais été un petit peu étonné. Je me suis dit, le seul domaine où il y aura toujours des médecins, ça serait en psychiatrie. C'est-à-dire qu'on aurait du mal à aller voir un robot ou un ordinateur et à qui on raconterait un petit peu son état d'âme. Eh bien, figurez-vous qu'il y a une expérience qui a été faite il y a 2-3 ans dans le sud de la France. Et les gens allaient voir plus facilement un robot. pour raconter leurs problèmes de dépression ou toutes sortes de problèmes psychiques. Pourquoi ? Parce qu'ils disaient qu'en fait, le robot ne les jugeait pas et qu'ils avaient plus librement la possibilité de s'exprimer. Alors vous voyez, donc on est vraiment dans un on ne sait pas comment les choses évolueront, donc c'est intéressant de voir la projection de mes camarades dans les 10 ans à venir.
C'est étonnant que vous disiez ça parce que c'est exactement ce que nous dit Pierre Kasounogas, qui est professeur de philosophie à l'Université de Paris 8 et qu'on a interviewé dans le cadre de ce dossier prospectif. Et il nous dit exactement ça, c'est-à-dire que les hommes, à travers l'évolution dans les prochaines années, vont avoir des relations de plus en plus ambiguës avec les machines, avec les robots, que ce philosophe définit comme des êtres ambivalents auxquels on parle. Et il donne cet exemple. Il dit à notre journaliste, ça vous semble incongru, mais pourtant, ça vous est déjà arrivé dans les bouchons de dire à votre voiture, allez, démarre s'il te plaît. En fait, voilà, on a ce truc de très affectif avec les machines qui nous entourent et qui ne va que s'accroître dans les prochaines années.
Non, mais tout à fait, ça pose de toute façon notre rapport à la technologie, hein, il est évident. Moi, je tiens juste à raconter, parce que ça me paraît intéressant, j'ai assisté à une conférence de l'ancien Henry Kissinger. Vous savez, il est quand même pas tout jeune, il a 97 ans, donc il a du recul par rapport à la situation, et il disait quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'il disait qu'avant, la technologie, elle était au service de la science, de la philosophie, de la pensée, voilà. Et il dit aujourd'hui, on a atteint un tel niveau de technologie, mais la philosophie n'est plus, ce n'est plus la technologie qui est au service de la philosophie. On développe de la technologie et on essaye ensuite de voir quelle philosophie on va en découler. Tant et si bien qu'aujourd'hui, on a même des ouvrages, il y a un best-seller aux États-Unis qui s'appelait « Penser en algorithme ». Par exemple. Et je veux dire, il ne faut pas qu'on inverse les rôles. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de ramener ce qu'on disait, l'humain au centre des choses. Notre rapport à la technologie va changer, mais bon, l'homme reste maître normalement de la situation. Il ne faut pas que ça change.
Alors, quelques mots, Samuel Liévin, pour conclure hein, sur cette fiction du pèlerin à l'occasion de la nouvelle année. Vous n'évoquez pas de femmes qui sont prêtres, là. On parle d'une diaconesse, mais la femme prêtre n'existe pas encore.
Non, parce qu'on n'a pas non plus tiré le trait à 50 ans, non pas que je prenne déjà des paris sur ce qui va se passer, mais on sait que l'Église est un milieu où les décisions ne se prennent rarement du jour au lendemain. Alors, en revanche, on esquisse déjà une diaconesse, effectivement, qui existe déjà dans le monde protestant, mais dans le monde catholique, c'est en discussion, ça a été plusieurs fois mis sur le tapis, et donc on sait aussi qu'il y a aujourd'hui beaucoup de femmes qui, dans l'Église, se structurent, se mobilisent pour que leur rôle qui est fondamental, réel dans la vie de l'Église depuis la nuit des temps, soit enfin reconnu et puisse être traduit non pas simplement par des positions de pouvoir un peu symboliques au Vatican, mais par un ministère au quotidien.
Alors, Ariel Tonedano, donc, ce livre, Réparer les corps, Réparer le monde, 8 portes pour accéder à la sagesse, publié chez InPress, en fait, est un livre qui vient à la suite de nombreux autres ouvrages. Vous avez écrit précédemment Médecine du Talmud, Médecine et Kabbale, Médecine et Bible, et donc La médecine de Maïmonide. Ce livre, vous le vouliez pour répondre à, manifestement, à une souffrance. Hein, vous l'avez évoqué tout à l'heure.
Tout à fait. Mais en fait, l'idée m'est venue de Maïmonide. Oui. Maïmonide écrivait dans son livre...
Alors, le 12e siècle, on va le resituer.
Alors, hein, Maïmonide, ce grand penseur du judaïsme médecin, du 12e siècle, qui est un médecin, philosophe, et qui a écrit, théologien, et qui a écrit un livre qui s'appelle Le Guide des Égarés, qui est un ouvrage très intéressant, vraiment un ouvrage assez puissant. Et dans cet ouvrage, il dit... commencer par soigner les gens, c'est une première étape pour bâtir un monde meilleur. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il n'y avait qu'un homme comme Maïmonide qui était en même temps un grand philosophe, un médecin qui avait, à mon avis, tout compris. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a brassé toutes les sagesses. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été formé par des médecins arabes. Il avait tout compilé, grands textes du judaïsme, ceux du Talmud et évidemment ceux de la Bible. Et il avait évidemment lu toute la philosophie à travers, vous savez, les traductions arabes, notamment la philosophie. C'était vraiment un passionné d'Aristote. Et son guide des égarés, c'est une c'est un essai de concilier la pensée juive avec celle d'Aristote. Et lui disait ça, donc il avait parfaitement saisi qu'il était fondamental de tenter de soigner les gens, mais de réparer à travers justement le soin qu'on apportait à ces gens, de réparer ce monde qui était un monde pour lui inachevé, qu'il fallait absolument réparer.
Un monde donc qu'il faut réparer, et là c'est ce qu'on appelle le tikkun olam.
Alors tikkun olam, c'est oui. c'est une notion qui est maintenant connue. Hein. J'ai même entendu dans une émission, je ne sais plus dans quelle radio, qu'un philosophe, alors je ne me souviens plus de son nom, mais qui disait que cette notion, pour lui, était inscrite dans la philosophie grecque aussi. Alors vous voyez, je ne le savais pas, mais en tout cas, dans la tradition juive, la notion de tikkun, elle émane principalement de spécialistes de la Kabbale, qui ont été, alors vous savez, dans la Kabbale, c'est cette sagesse un peu qu'on qualifie de mystique, c'est-à-dire révéler des choses secrètes dans les textes de la Bible. Elle a été développée au XVIe siècle par un rabbin qui s'appelait le Arizal, Rabbi Yitzhak Luria. Je ne sais pas si ce rabbin est suffisamment connu de nos auditeurs, mais en tout cas, ce rabbin a développé cette notion. Il a développé deux types de concepts, le tikkun olam, c'est-à-dire la réparation du monde, et le tzimtzum, c'est la notion de rétraction de Dieu, cette absence de Dieu dans le monde pour laisser justement le soin à l'homme de pouvoir s'épanouir dans ce monde.
C'est ça, Dieu crée le monde, un monde, s'en retire.
Voilà, exactement,
qui s'en retire.
Mais est-ce que, justement, est-ce qu'il s'en retire totalement ou sa présence est voilée? C'est ce qui est très intéressant. Vous savez, l'obsession d'un médecin aujourd'hui, c'est la notion d'unité. Unité du corps et de l'esprit, ça c'est quelque chose pour moi de fondamental. Aujourd'hui, c'est acquis, ce qui n'était pas le cas dans la philosophie grecque jusqu'à Descartes. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Et dans la tradition juive, et c'est ce que je raconte dans cet ouvrage, l'objectif de tout individu, c'est d'arriver à une forme d'unité. Et l'objectif dans la tradition juive, c'est cette notion d'unité. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, dans la tradition juive, cette unité n'est pas réellement patente. C'est-à-dire que, par exemple, un juif pratiquant, par exemple, n'a pas le droit de prononcer le nom de Dieu. C'est quelque chose de impossible. Et s'il le fait, il enfreint un commandement, si vous voulez. Donc pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, quand arrivera le temps d'un monde qui sera totalement réparé, d'un monde messianique, eh ben, cette notion d'unité, elle sera totalement retrouvée. C'est-à-dire que le juif aura le droit de prononcer le nom de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on le prononce, quand un juif prononce dans sa prière le nom de Dieu, il ne prononce même pas le nom qu'il lit. C'est-à-dire que ce qu'il lit, il ne le prononce pas. Donc il y a une sorte de dissociation entre ce qu'il va lire et ce qu'il est en fait écrit dans le texte. Et cette unité retrouvée, elle sera à ce moment-là quand le monde sera réellement réparé.
Alors pour réparer le monde, il faut la connaissance. Votre livre est l'éloge de la connaissance,
tout à fait.
L'éloge du mouvement, l'éloge de l'adaptation dont nous parlions tout à l'heure, s'adapter au réchauffement climatique par exemple, s'adapter à l'intelligence artificielle. C'est un éloge d'un monde en mouvement.
Tout à fait. En fait, si vous voulez, là on revient à la pensée de Maïmonide. Maïmonide que disait qu'en fait, quel est le sens? Vous savez, dans un monde qui est en perte de repère, sans être un collapsologue, c'est un monde où on voit que les gens ont besoin de retrouver du sens. Maïmonide disait que la meilleure manière de retrouver du sens, c'est de s'intéresser à la connaissance. C'est l'objectif d'une vie, c'est la connaissance. Et Maïmonide, justement, tout l'objectif de sa vie, ça a été la connaissance. C'est-à-dire que il va présenter les choses à travers trois types de perfections. Il dit tout individu doit arriver à ces trois perfections. La première perfection, c'est la perfection physique, c'est-à-dire considérer qu'il faut être en bonne santé.
La
pour
santé, c'est un normalement
fondamental.
C'est
première perfection,
une obligation.
La perfection, voilà, exactement, obligation du corps pour que le corps soit en bonne santé. Une fois qu'on a cela, eh ben on peut arriver à une deuxième perfection, c'est la perfection sur le plan moral, sur le plan éthique. Et troisième perfection, c'est la perfection sur le plan intellectuel. Donc ça c'est vraiment la pensée de Maïmonide. Et il se base sur quoi? Sur le texte de la Bible. Le premier texte, la première parole de Dieu dans le texte de la Bible, il dit que la lumière soit, que la lumière se crée, et la lumière fut. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et il interprète cette vision de la lumière en disant, illuminer le monde, c'est illuminer l'esprit. Et c'est justement, et Maïmonide est clair, parce qu'à la fin, quand justement la lumière est créée, Dieu dit, c'est bien, en hébreu, Tov. Et il dit, si c'est bien, ça veut dire que le monde a un sens et que le sens de ce monde est bon. Donc, vous voyez, on n'est vraiment pas dans une ambition de collapsologue encore. On est vraiment dans une ambition où le monde a un sens et que ce sens, il faut le trouver dans notre vie à travers justement l'accès à la connaissance et à l'accès à la sagesse d'où qu'elle vienne. Maïmonide disait, accepte la sagesse d'où qu'elle vienne. Il n'y a aucune sagesse qui le limite. Tout, et c'est ce qu'on disait d'ailleurs au début de notre entretien.
En revanche, puisqu'on parle de limites, vous insistez beaucoup, vous, sur cette perte de limites que notre société actuellement s'inflige en quelque sorte.
Alors oui, vous avez raison, cette perte de limites que cette société nous s'inflige, mais au-delà de cela, ce qui est important, c'est justement, c'est ce qu'on disait au tout début, c'est la notion de ramener de l'humain, de l'humanité dans nos rapports. Et ça, c'est quelque chose de fondamental à rappeler, notamment dans ma pratique au quotidien.
En tant que médecin, tous les jours, cela vous habite ?
Ah, et tous les jours. D'ailleurs, même les gens, à la fin de ma consultation, me disent, je pense pas qu'on, et même cette notion de prise en charge holistique, c'est fondamental de s'intéresser au corps, à l'esprit, ne pas se contenter de soigner. Maïmonide avait une pensée. Alors, vous allez dire, je cite souvent cet homme, mais il m'a habité. J'ai écrit une biographie, ce personnage, et il disait, quand l'esprit guérit le corps, vous voyez, donc il y a vraiment une unité entre les deux. Et il disait, en fait, ne pensez pas à panser les plaies de vos patients. Pensez aussi à vous enquérir de l'état d'esprit dans lequel ils sont, parce que souvent, un homme qui est malade a un esprit torturé, et un patient en bonne santé, une personne en bonne santé, a un esprit libéré. Donc il faut libérer les esprits de ces gens-là. Et Maïmonide avait deux possibilités. Soit il avait face à lui un homme qui était croyant, il leur apportait des réponses sur le plan théologique, soit c'était quelqu'un qui ne l'était pas, et à ce moment-là, il avait la réponse philosophique qu'il servait à ces gens-là.
Alors, beaucoup d'espérance dans votre livre, docteur
Je finis
Ariel,
là-dessus. Je finis
absolument,
là-dessus,
mais... beaucoup d'espérance. Et alors, notamment, il y a cette phrase, alors c'est de Rabbi
Nachman
de Breslau, c'est ça ?
Ouais, alors,
si tu crois que l'on peut détruire, crois aussi que l'on peut réparer.
Rabbi Nachman de Breslau, c'est un personnage assez incroyable du XVIIIe siècle, qui a fondé on parle du racidisme, qui a été très développé par Elie Wiesel, notamment, qui a beaucoup, exactement. Et donc, qui a, dans beaucoup de ses ouvrages, il en parle. Et donc, Rabbi Nachman de Breslau est une branche de ce racidisme, et c'est une pensée qui est orientée sur l'espérance. C'est-à-dire que malgré, en plus, c'est assez triste parce que tous ces hommes qui ont fondé le racidisme, malheureusement, sont morts, au XXe siècle dans la Shoah. Et donc, si vous voulez, c'est ce qui m'a interpellé en tout cas ce que j'avais envie de mettre en avant dans cet ouvrage, c'est dire que un peuple qui a une sagesse, qui est cette sagesse qui a été aussi résiliente, qui a permis en fait d'affronter tellement de choses difficiles dans leur existence et qui a permis à ce peuple malgré tout de survivre, pourquoi ne pas la transmettre, pourquoi ne pas l'évoquer et donner à des gens qui sont en souffrance la possibilité de bénéficier de ces belles phrases que vous avez citées, notamment celle de Rabbi Nachman de Breslau, mais bien d'autres.
Ah, il y en a une autre, absolument. Il y en a beaucoup, mais celle-ci aussi, j'aimerais vraiment que nos auditeurs la connaissent. Et j'aimerais que vous nous expliquiez d'ailleurs le sens de cette phrase assez énigmatique. Ne demande pas ton chemin à quelqu'un qui le connaît, car tu ne pourrais pas t'égarer. Ça veut dire quoi, ça ?
Non, mais ça, c'est encore une très belle...
C'est typiquement juif, ça.
Voilà, mais c'est une très belle phrase de Rabbi Nachman de Breslau qui considère que dans la vie, il faut savoir s'égarer. Que ce qui est important, c'est pas d'avoir un GPS. Parce qu'en fait, c'est terrible, le GPS. Vous savez exactement à quelle heure vous arrivez, vous savez où vous arrivez, mais ça vous évite, en fait, de passer par des endroits auxquels vous ne vous attendiez pas. Donc, la philosophie de Rabbi Nachman, c'est accepter dans la vie de s'égarer par moments pour justement retrouver peut-être quelque chose de nouveau. Et ça, c'est l'ambition du mouvement et c'est l'ambition de la nouveauté. Faire ce qu'on appelle en hébreu le ridouche, apporter du renouvellement et de la nouveauté dans votre quotidien, c'est ce que d'ailleurs le début de mon ouvrage, faire en sorte comment l'éternité arrive, c'est à travers justement faire de son quotidien tous les jours quelque chose de nouveau.
Je me tourne vers vous, Samuel Lieven et François-Xavier Mey. Que pensez-vous de ces petites perles de sagesse ?
Eh bien, c'est les petites perles dans lesquelles on essaie de s'inscrire, ne serait-ce que spirituellement. On sait que le XXe siècle a quand même été marqué, et c'est une bonne chose, par la redécouverte des racines spirituelles du christianisme, qui sont profondément juives, ce que les papes ne cessent de rappeler. On s'en aperçoit quand on vous écoute. Parce qu'après, finalement, qu'est-ce qu'on met comme image ou comme personne derrière ce qui nous fait avancer? Il y a quand même là un moteur commun. Alors après, il y a des choix de vie, il y a des héritages spirituels, et nous, quelque part, de façon très très humble, hein, avec un journal, c'est ce qu'on essaie de faire aussi, réparer le monde. On en parlait encore avant cette émission. C'est quand même d'abord l'accueillir, le prendre tel qu'il est, ce monde, oui. sans le condamner, sans non plus le magnifier artificiellement. C'est avancer avec, et puis c'est aussi à un moment donné oser au-delà, je dirais, des faits qu'on expose, voilà, présenter des perspectives. Alors c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire avec ce sujet-là, qu'on fait plus modestement après au jour le jour avec des reportages, des enquêtes, mais donner à lire le monde, le donner à comprendre, c'est aussi quelque part le aider les gens à l'habiter, et c'est le propos que tient ce journal, et je suis convaincu qu'en tant que journal chrétien, il s'inscrit aussi encore plus profondément dans cette tradition spirituelle profonde qui tient l'homme debout et qui le fait avancer. Et ça, c'est une vraie profondeur, je pense.
Et
un vrai challenge.
François-Xavier Maigre, oui.
Moi, je suis très sensible à la phrase que vous venez de citer, qui est dans votre livre, sur cette urgence de consentir à une forme d'égarement et de ne pas toujours connaître son chemin à l'avance. Vous savez, nous, on s'appelle le pèlerin. Et par définition, le pèlerin, c'est celui qui se met en route.
Qui marche.
Et qui accepte parfois de s'égarer, mais qui est tendu vers un but. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire depuis, Samuel, je parle sous ton contrôle, mais presque 150 ans maintenant. C'est-à-dire de traverser l'époque dans laquelle on s'inscrit, en ayant notre cap, c'est l'espérance, c'est le bien commun. On ne sait pas toujours où ça va nous conduire. L'actualité nous malmène parfois, comme c'est le cas en ce moment. Il y a énormément d'incertitudes qui pèsent sur notre monde et sur notre avenir, mais on sait qu'on vise un cap juste, et on essaye de rester droit et d'emmener nos lecteurs dans cette aventure qui est le réel. Et c'est exactement ce que cette fiction a cherché à faire, c'est-à-dire de pas tout peindre en rose, mais d'aller vers un futur incertain, avec des convictions bien ancrées.
La vie est un voyage qui ne commence vraiment que lorsque l'on lui assigne un objectif. C'est d'autres phrases aussi de votre livre.
Ça rejoint totalement ce qu'il vient de dire. Moi, ce que j'aimerais juste dire, ce qui est important, et surtout dans cette période, ce qui est fondamental, c'est que la discussion continue à se nourrir, que les gens puissent se parler. C'est l'absence de dialogue qui, à mon avis, amène à la violence. Et ça, c'est fondamental qu'à travers, justement, les échanges sur des sagesses très différentes, on arrive justement à continuer à discuter, continuer à parler, même si chacun se campe, évidemment, sur sa tradition, sur ses origines.
Oui.
Voilà. Mais c'est important de continuer à débattre, à discuter. On est une tradition de la discute, de la discussion. Et de la dispute, disputation intellectuelle, oui. Évidemment.
Sur cette rencontre avec l'autre, docteur Ariel Toledano, moi j'aimerais quelques précisions. Vous évoquez la tour de Babel, indirectement, à un moment donné du livre. Est-ce que vous estimez qu'effectivement, aujourd'hui, faire du monde une sorte d'unité sans la diversité, c'est dangereux?
Ah, je pense que ce qui est important, c'est que chacun garde ses propres origines, ses racines, et c'est important, cette diversité, cette unité dans la diversité, moi ça m'évoque en tant que médecin l'ADN, c'est-à-dire que on sait que en tant que médecin, nous avons tout ce qui compose l'humanité a de l'ADN, et cette unité forme notre diversité, et ça c'est intéressant parce que justement quand on est médecin, on sait que chaque patient est unique. Chaque patient est unique, et la façon dont on appréhende chaque patient doit rester également unique. Et ça, c'est important. Cette unité dans la diversité, elle est importante. Alors, vous évoquez l'époque de l'épisode de Babel. Babel, c'est exactement ça. C'était refus, justement, d'avoir cette unité commune qui avait un objectif qui était probablement un objectif terrible, celui de Homo Deus, c'est-à-dire de tuer, peut-être de ressembler à Dieu, ou même d'arriver à
s'élever
jusqu'à lui. Mais ça, c'est intéressant parce que c'est encore le problème aujourd'hui. Vous avez un ouvrage qui a fait couler beaucoup d'encre, qui est Homo Deus, de l'écrivain israélien, historien israélien Harari, qui disait justement que l'homme veut accéder à Dieu. Moi, je pense que la vision du judaïsme, c'est que l'homme ne veut pas ressembler à Dieu, l'homme est en dialogue avec Dieu. Et ça, c'est intéressant. Il y a une confrontation, il y a un dialogue. On n'est pas dans un rapport de soumission, on est dans un rapport de dialogue. On en revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire à cette parole qu'il y a entre Dieu et l'homme. Et cette parole, il faut justement essayer de la déchiffrer, de la comprendre. Et c'est à travers l'étude, la connaissance.
Alors, on terminera, docteur Ariel Toledano, sur cette injonction de votre livre, l'obligation d'être joyeux.
C'est quelque chose de tellement important, et ça c'est développé justement par ce rabbi Nachman de Bratslav, qui dit que c'est une obligation dans sa vie d'être joyeux. On ne peut même pas l'envisager, c'est-à-dire que si on n'est pas joyeux, et c'est tellement important, vous le voyez bien même dans notre quotidien, il faut accepter, vous savez, je parle souvent de l'aisance cognitive dans le livre, c'est-à-dire qu'il faut aussi parler que simplement regarder des gens en train de sourire, déjà, ça peut vous apporter...
Ça décontracte déjà.
Voilà, oui. Ça décontracte, donc il faut tout faire pour... Et puis, on le sait très bien, le stress engendre certaines maladies métaboliques. Donc, faire en sorte d'être joyeux, même si les circonstances ne l'encouragent pas, je pense que c'est quelque chose qui peut vous aider à être en bonne santé.
Alors, un petit tour de table pour terminer, pour savoir ce que vous souhaitez pour cette année 2020. Alors, Ariel Toledano.
Écoutez, moi, en tant que médecin, ce que je souhaite, c'est qu'on arrive à trouver des solutions aux maladies qu'on appelle les maladies incurables. Et d'ailleurs, je commence mon ouvrage là-dessus en disant que quand j'étais jeune étudiant en médecine et que je travaillais dans un service où j'avais affaire à des patients qui avaient une sclérose latérale amyotrophique, je n'imaginais pas à quel point, si vous voulez, la médecine était totalement incapable de trouver des solutions à ces malades-là. Donc, trouvons... aidons les chercheurs à trouver des solutions à ces maladies incurables. Et moi, j'ai plein d'espérance parce que je sais qu'on a beaucoup de domaines où on a apporté des réponses et donc qu'il n'y ait plus dans le monde des maladies incurables.
Samuel Liévin.
Écoutez, on a quand même passé une année assez difficile, notamment marquée par les gilets jaunes, et on l'a terminé cette année 2019 sur les grèves et sur aussi les retraites, c'est surtout aussi une manière de se projeter dans l'avenir, et Dieu sait qu'on s'y projette avec angoisse. Et donc, si cette année 2020, sans faire un vœu trop pieux, même en étant directeur de la rédaction de Pèlerin, pouvait être l'année d'un début d'apaisement, c'est-à-dire qu'on sait quand même que ce pays a énormément de ressources en lui, on a essayé de le montrer avec ce récit, pour surmonter ces obstacles, qu'il n'y a pas, a priori, d'obstacles insurmontables. On peut aussi regarder ailleurs sur la planète. Vous le faites beaucoup sur RFI tous les jours. Il y a beaucoup de situations beaucoup plus difficiles.
Beaucoup, beaucoup plus, oui.
Au Proche-Orient, en Asie ou en Amérique latine, en Afrique. Et donc, si oui, cette année 2020 pouvait justement, alors ça viendra aussi bien du gouvernement que des autres, et puis aussi chacun un peu de soi-même, essayer de... un peu de sagesse et d'apaisement, et on finira mieux l'année qu'on ne l'a commencé.
François-Xavier Maigre.
Moi, je souscris à tout ce qui vient d'être dit. Et j'aurais tendance à ajouter, à la lumière de ce récit qu'on propose et de tous les enjeux qui nous attendent, notamment sur le plan climatique, industriel, on a souvent une approche très technique face à ces questions. Et moi, à l'instar de Sylvain Tesson, dont je viens de finir le dernier livre, j'aimerais que les hommes, et les Français en particulier, réinjectent un peu plus de poésie, de rêve dans leur rapport à l'écologie et à tous ces défis qui nous attendent. J'aimerais qu'on ait une vision aussi poétique du monde, capable d'accueillir la beauté qui reste à disposition pour proposer une écologie contagieuse et poétique.
Merci à tous les trois pour ces phrases de sagesse. Donc, je rappelle le numéro de Pèlerin Magazine de ce début d'année et puis votre livre, docteur Ariel Toledano, Réparer les corps, réparer le monde, 8 portes pour accéder à la sagesse aux éditions InPress. C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delru, Julien Leng vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.
En 2019,